remonter mes chaussettes.
Qui sait sous la douche.
Par contre, j'aime pas m'arracher les poils du nez.
J'aime bien être témoin d'une scène tellement énorme qu'on n'oserait même pas la mettre dans un film.
J'aime pas faire l'amour avec une femme et penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien l'idée qu'après la mort, ce sera pas pire qu'avant la naissance.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier dans l'émission Arrose ta cafetière. Je suis Thibaut Bayard et je présenterai cette émission aux côtés de Maya Danei et Clara Pétadoni. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Au programme aujourd'hui, nous accueillons un conteur, Benoît Ramos, pour une lecture de conte, du coup, dans notre rubrique L'Impromptu. Salut Benoît.
Salut.
Puis nous aurons le plaisir de poser des questions à Anne Béliard, directrice de casting et comédienne. Salut Anne.
Salut.
Nous finirons enfin par un nouveau petit programme de notre création s'intitulant Madame Ninon. Voilà, vous êtes, merci d'être avec nous sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. Nous commençons donc en entrant dans le fabuleux monde du rêve, du conte, avec Benoît Ramos et son conte Le Trésor du Rêve.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
En ce temps-là, il y avait un paysan qui avait une vie difficile. Tous les jours, il travaillait la terre, tous les jours, il se cassait le dos, et tous les jours, lorsqu'il finissait son travail, il allait devant sa maison s'asseoir sur un petit banc de pierre et il contemplait le grand arbre qui était en face. Il bourrait sa pipe, il la fumait, fermait doucement les yeux et il dormait. Quand il dormait, il rêvait. Et tous les jours, il faisait le même rêve. Et dans ce rêve, il voyait une ville au-delà des océans. Il voyait une ville au bord d'une rivière. Et dans cette ville, au bord de cette rivière, il y avait un pont. Et au pied de ce pont, il y avait un trésor fabuleux. C'est une chose dangereuse que les rêves. Car si on s'attache trop à leur tissu, ils peuvent nous entraîner. Et ce paysan s'est laissé entraîner car... À chaque fois qu'il faisait ce rêve devenait plus concret et il se disait que ce rêve n'en était pas un. Alors un matin, il n'est pas allé au champ. Un matin, il a fermé la petite porte de bois de sa maison, il a mis la clé sous la pierre, il a pris son baluchon, il l'a mis sur son épaule, il a mis le chemin sous ses pieds et marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant qu'on fait du chemin. Il a marché longtemps, il a grimpé des montagnes, il les a redescendues. Il a traversé des plaines, il a traversé des déserts, il est arrivé au bord de l'océan, il a pris un bateau, il a traversé l'océan. De l'autre côté de l'océan, il a trouvé une rivière, c'était la rivière. Il a remonté cette rivière et il est arrivé à une ville, c'était la ville. Alors dans toute la ville, il a cherché un pont, c'était le pont. Il est arrivé au pied du pont et au pied du pont, il y avait un homme, un policier. Et le paysan s'est assis désespéré au bord de l'eau. Et le policier est allé voir, il dit « Bah alors mon bonhomme, qu'est-ce que c'est ?»« Vous allez vous moquer de moi ?»« Bon, ça risque pas, sauf si vous me dites des camarades. » »« Eh ben, figurez-vous que je suis venu ici à la poursuite d'un rêve. Chez moi, je travaille la terre, je me casse le dos tous les jours. Chaque fois que je finis ma journée, je me pose sur le banc devant ma maison, je regarde le grand arbre qui est en face. » Je bourre ma pipe, je la fume, je ferme les yeux, je dors et je fais toujours le même rêve. Dans ce rêve, figurez-vous que je vois votre ville, je vois ce pont, et au pied de ce pont, je vois un trésor. Alors, vous pensez bien, sans vouloir vous faire offense, que en vous voyant, j'étais déçu, mais surtout désespéré de voir à quel point j'étais bête de poursuivre ce rêve. Et là, mes amis, le policier s'est mis à rire.
« Oh, celle-là, elle est bien bonne !» Alors, parce que, figurez-vous, moi, tous les jours, je viens au pied de ce pont. Tous les jours. Parce que tous les jours, après sa vie, je fais ma sieste. Et quand je fais ma sieste, je fais un rêve. Tous les jours. Tous les jours, je rêve d'un homme qui est assis sur un banc devant une petite maison de pierre. Et en face de sa maison, il y a un énorme arbre. Et sous cet arbre, il y a un superbe et fabuleux trésor et cet homme, il l'ignore. Elle est pas bonne celle-là.
Là, le paysan, il se dresse et il se remet à courir. Il quitte la ville, il descend la rivière, il retraverse l'océan, il retraverse le désert, il regrimpe la montagne, il la redescend, il retourne chez lui. Il se met en face du grand arbre, il prend une pelle, il creuse et sous les racines qui l'attendaient depuis le début, il y avait un fabuleux trésor. Et c'est la fin de cette histoire.
Merci beaucoup, Benoît. Donc vous êtes toujours dans l'émission Arosta Cafetière sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. On va mettre une petite interlude musicale avec une de mes chansons préférées, c'est Handlebars de Flobots.
I can ride my bike with no handlebars, no handlebars. No handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. Look at me, look at me. Hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus. Me and my friend made a comic book. And guess how long it took. I can do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone. Look at me, look at me. Just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule. Of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations and let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations. Have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command because I can guide a missile by satellite. By satellite. By satellite. And I can hit a target through a telescope. Through a telescope. Through a telescope. And I can end the planet in a holocaust. 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 I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars, no handlebars.
Pour la rubrique Microscope de ce mois-ci, nous accueillons Anne Béliard, directrice de casting et comédienne, qui nous fait la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions. Maya, je te laisse la parole.
Bonjour Anne.
Salut.
Alors donc Anne Béliard, tu as travaillé dans différents métiers, dans le théâtre, dans le cinéma, pas que peut-être. Et tu as commencé avec une formation de comédienne par contre.
Donc, ouais.
C'est ça.
Ouais, j'ai commencé il y a de ça un certain temps en tant que comédienne, que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, les choses se sont arrêtées plus par choix que voilà. Mmh. J'avais fait un peu le tour de ce que je voulais exploiter sur scène. Et je suis passée de l'autre côté. Donc maintenant, je ne suis plus vraiment comédienne. Je ne joue plus vraiment beaucoup. Voire, enfin, si je fais des petits trucs vidéo, des choses comme ça. Mais je suis plus... j'ai développé plus, en fait, ce que j'appellerais chargée de production. Depuis 10 ans, je travaille beaucoup en tant que chargée de production pour le spectacle vivant.
Mmh.
Ça consiste plus en que quoi casting.
Pardon, j'attaque déjà les questions, après tu...
Bah non, mais genre, t'as raison. Genre,
après, tu continues à nous parler de comment c'est à aller jusqu'à là où t'en es aujourd'hui.
C'est la moi, curiosité je veux juste... qui...
C'est ma curiosité.
Non, je veux c'est juste... quoi une chargée de production?
Ouais, en quelques mots, en fait, pour des compagnies de théâtre, c'est ça du coup, en fait.
Alors moi, je travaille essentiellement pour des compagnies de théâtre, mais après, ça peut aussi se décliner. Tu l'as aussi dans le cinéma, tu l'as dans la musique, enfin, tu peux... Le poste, en quelques mots, résumerait de, ben voilà, un artiste a un projet, donc avec lui, tu l'aides à monter le financement, à aller chercher des financements, des partenaires, et puis à mettre en place une première exploitation. Et puis après, moi, je travaille aussi sur sa communication, sur la diffusion. Donc en fait, c'est, je me dirais, accompagnatrice de projets artistiques, qu'ils soient dans le domaine du spectacle vivant, ça peut être aussi dans la musique, ou dans le cinéma, mais pour l'instant, je suis essentiellement sur le domaine du spectacle vivant et principalement les arts de rue, puisque je travaille depuis une dizaine d'années une compagnie qui s'appelle la CIA, Compagnie Internationale Alligator, qui est une compagnie de rue qui existe
à Montpellier.
Nous, on est basé à Grabelle.
Ok.
Ils ont une petite antenne aux États-Unis aussi, non?
Mais très, on n'en parlera pas, c'est...
Ça, c'est obscur.
Vas-y, je veux savoir la suite. Maintenant, j'ai posé ma question.
Eh bien, en fait, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça, mon cœur de métier. À la fois la production et puis le rapport au cinéma par le biais du casting, de la recherche de comédiens, de profils. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux jeunes, en fait. Aux jeunes, à la fois les ados, les enfants et tout. C'est un endroit où j'aime bien me positionner. Et c'est une entrée qui a commencé en 2013 avec Subarna Thapa, qui est un réalisateur népalais qui est reparti au Népal avec Fils. Et après, j'ai continué avec un ami qui s'appelait Philippe Bouillet, qui est malheureusement décédé depuis, sur un projet d'une jeune adolescente qui se suicidait, où j'ai accompagné sur le travail, la préparation, puisque le rôle était assez lourd, et sur le coaching pendant le tournage. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Romain Laguna sur Reptile, et puis le prochain sur le bal, et puis voilà. Donc ça me permet de... En fait, ça me permet de revenir un peu à un endroit où j'aimais, c'est-à-dire le jeu, et surtout la direction d'acteur, un peu la mise en scène, me refrotter à la mise en scène et renouer un peu avec le premier cœur qui était en tant que comédienne, voilà, où à la fois on joue, on fait des mises en scène, on se fait le troisième œil.
J'imagine que ça a dû énormément nourrir maintenant ce que tu fais maintenant, quoi. Ah bah, ça a développé ta sensibilité.
Bah, disons que ça me permet de... Moi, au conservatoire, quand j'ai commencé, on était comme ça beaucoup, mais de toute façon, vous devez peut-être le savoir, puisque vous sortez d'une compagnie, d'une école, où on est là, on travaille les scènes, on fait appel à quelqu'un, tiens, viens nous donner des conseils. Et moi, j'aime bien ce rapport un peu de construction et de regard extérieur et de conseils. Et c'est toujours quelque chose que j'essaye de... Que ça soit dans la production, que ça soit dans le jeu. C'est vraiment un endroit où j'aime me placer, donc en tant qu'accompagnée, en fait. C'est vraiment accompagnatrice. C'est un peu la continuité de mon chemin.
Mmh. Oui, ça fait sens. Tu as un parcours qui, pour toi, fait sens, où tu ne fais pas qu'une seule chose toute ta vie, mais où tu peux faire du lien.
Puis je pourrais finir carrément dans autre chose si ça arrive.
Pardon.
Oui, vas-y.
C'était quelque chose que tu avais pensé déjà depuis un moment, ou ça t'est tombé un peu dessus par hasard et t'as dit, en fait, j'aime faire ça?
Non, les choses se dessinent au fur et à mesure de ma route. Alors du coup, ça me donne un parcours un peu spécial, parce que je ne sais plus si je suis chargée de production, comédienne. J'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de la formation... Et voilà, la production. Et demain, je me dis que je pourrais aller aussi toujours autour quand même de la création. Ça, c'est vraiment un endroit qui restera. Ça pourrait être dans la peinture, ça pourrait être la musique, ça pourrait être le cinéma. Enfin, le cinéma et le jeu, c'est un peu les deux endroits, puisque voilà, qui me sont plus familiers. Mais c'est vraiment, je me laisse un peu des fois emmener un peu sur une rivière, et puis c'est au fil des rencontres et des chemins que je prends Voilà, j'ai arrêté de jouer, non pas parce que voilà, ça m'allait, enfin parce que ça marchait pas, c'est plus parce qu'à un moment donné j'avais un peu, j'étais arrivée à une fin d'une boucle, que ça devenait un peu aussi douloureux pour moi de monter sur scène. Et voilà.
Pourquoi ?
Faut être un peu malade pour monter sur scène. Non, pourquoi ? Parce que j'ai fait un projet qui était magnifique. Et à la fin de la pièce, un personnage qui finissait en boule, qui était assez, qui était un peu traître et dans une très grande fragilité. C'était Chacun son dû de Catherine Verlaguer. Et moi, je jouais une meneuse de cabaret qui vendait son mari aux Allemands. Ça, c'était sous l'occupation, face à la période des nazis. Et du coup, je sais pas, j'ai eu la sensation que voilà, ça me mettait quand même beaucoup en fragilité tous les soirs de jouer ce rôle. Et je me suis dit, voilà, si les choses se terminent ici, c'est vraiment bien, quoi. Mmh. J'ai eu un magnifique cadeau, un rôle superbe. Et puis après, j'ai déménagé, je suis venue à Montpellier. J'avais passé la trentaine, donc à un moment donné, je ne me voyais pas reconstruire tout ce que j'avais construit quand j'avais 20 ans à Paris, repartir sur des projets où des fois, tu n'es pas payé, où c'est pas artistiquement, tu ne t'y retrouves pas. Et donc, je me suis dit, bah, aller de l'autre côté, ça me va bien aussi d'accompagner, d'aider à structurer, de faire en sorte que, bah, voilà, que quand tu joues, tu sois rémunéré, que quand tu répètes, tu puisses aussi l'être, parce que ça reste un métier avant tout, et ça, il ne faut pas l'oublier.
Moi, j'ai une autre question, plus au casting, en fait. Ça m'intéresse. En fait... Par exemple, un réalisateur, il vient, il dit, ben, il me faut, je sais pas, une dame de 50 ans, machin. Au-delà des critères physiques, quand c'est passé, qu'est-ce que tu vas chercher chez les gens et en quoi ça dépend ou pas des demandes du réel ? Enfin, tu peux te décrire ça.
Alors, ce que j'essaye quand même déjà, c'est de cerner un peu alors, il y a l'univers, la demande du réalisateur, en fait. Donc, quand, par exemple, si on cherche un personnage, comment il la voit, quelle énergie elle doit avoir, comment il l'imagine dans sa tête, elle est grande, elle est petite, son caractère, voilà, volontaire, plutôt discret. Donc, il y a à la fois découvrir un peu les films qu'il a déjà fait et en parlant avec lui, d'essayer de percevoir le type de caractère, de nature vers lequel son cœur balance. Et voilà, je pense que tout part déjà d'essayer d'arriver à comprendre ce que veut un réalisateur. Moi, c'est un peu ma base. Et après, moi, c'est mon feeling en voyant des caractères, par exemple. C'est vrai que, par exemple, sur le film Les Reptiles, qui sortira l'année prochaine. Le rôle Nina, c'est un personnage qu'il avait écrit, qu'il avait trimballé avec lui pendant des années, qu'il avait imaginé, qu'il avait... Voilà, c'était un fantasme. Enfin, c'était quelque chose... voilà, il a fallu, comme je dis, la construire, lui mettre une tête, des bras, des jambes. Et ça a été beaucoup d'aller-retour pour petit à petit me dire que la vision qu'il avait de Nina, c'est aussi la même que je lui ai amenée, quoi. On est passé par plein de profils différents, il a fallu la construire. Et puis après, il y a vraiment, c'est bête à dire, mais je trouve qu'il y a en casting, quand la personne, elle est là, quelque part, tu la sens, quoi. Moi, il y en a eu quelques-uns comme ça. Le rôle d'Alex, quand Nathan est rentré, je me suis dit, c'est lui. Voilà. Après, c'est lui pour moi. Est-ce que ça sera aussi lui pour le réalisateur ? Mais finalement, après, on est aussi en échange. Parce que c'est quand même le réalisateur qui décide. Toi, tu peux sentir quelqu'un, mais si lui, il n'en veut pas, il n'en veut pas.
C'est une sorte de coup de foudre artistique, en fait, un casting. C'est un peu ce que tu nous dis.
Humain aussi, qui correspond des énergies.
Après, moi, je vais rencontrer, il y a des profils qui me plaisent et je me dis, tiens, lui, je pense qu'il peut arriver. Il va à mon univers. Après, il ira peut-être pas à l'univers du réalisateur. Moi, j'ai vu des gens que j'ai proposés. Moi, j'aimais bien. On m'a dit que non. Tu vois, donc après, c'est surtout arriver à. Ouais, à petit. Ça passe quand même beaucoup par au fur et à. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler, mais. de regarder, de propositions, et c'est en fonction des réalisateurs. Il y en a qui sont assez précis dans ce qu'ils veulent, et les choses se construisent assez vite. Et puis, t'en as d'autres, bah, voilà, ils vont mettre du temps. Et voilà, le personnage de Nina, ça, c'est un personnage... Voilà, j'ai commencé en octobre, on l'a trouvé fin mai. Mmh. Et on en a vu pas mal.
Et pour ceux qui ont jamais fait de casting, du coup, c'est, ça se passe... donc tu filmes des scènes jouées que après tu peux montrer au réalisateur et parler de...
Alors ça se fait en... Ça, je vois un peu le modus vivendi que veut le réalisateur. Il y a des réalisateurs qui vont dire non, moi je veux d'abord voir la photo. T'en as d'autres qui vont me dire bah vas-y et puis amène-moi des essais. Moi je sais ce que j'ai bien aimé sur les reptiles, c'est que je suis allée beaucoup dans des entretiens au départ, puisqu'on travaillait aussi sur des non-pros, donc voilà. Sur d'autres à venir, ça va être c'est un travail de photo et après une rencontre directe avec le réalisateur ou ça a été aussi après moi des propositions soit d'impro et de scène. Mais j'aime bien le petit temps de rencontre, des entretiens quand même, je trouve. Alors après moi je suis pas dans une mécanique, je travaille pas pour TF1 ou des... Voilà, je n'abats pas, on ne me demande pas en une semaine, trouve-moi. J'ai aussi la chance, pour l'instant, de travailler sur des projets où on, y a vraiment des échanges avec les réalisateurs, on se prend le temps et on prend le temps de faire les choses et de construire. Donc du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir un rapport au casting un peu plus humain, parce que j'en ai fait des castings et le côté, tu tournes un nain, tu balances ton texte, je trouve ça juste...
Pour la télé, par exemple, c'est quelque chose
voilà. De... Voilà, après, je sais que c'est un métier hyper tendu, et que des fois, t'es obligé. Enfin, j'imagine, je pense que t'es... Parce que je connais d'autres qui en font ça, et je sais qu'elles sont sous tension parce que les temps sont très courts. Voilà.
Et moi, j'avais une question. Tu disais que tu bossais avec des jeunes. Est-ce que c'était dans le cadre du casting que tu disais ça?
Bah, disons que sur les reptiles, il y a eu beaucoup de jeunes, en fait. Jeunes non pros. Et c'est vrai que j'ai un peu envie de me dire, bah, tiens, ma spécificité, parce qu'il y en a des directrices de casting et des personnes qui font du casting sur la région de plus en plus. Et moi, j'ai un peu envie de me placer à cet endroit-là, au niveau des jeunes, des enfants, des... d'aller chercher un peu ces profils que tu... c'est pas des comédiens... après, il y en a, des jeunes qui sont comédiens, mais d'aller... l'enfant m'intéresse au niveau du casting, parce que du coup, aussi, on travaille avec eux.
C'est ça que je me demandais, en fait, qui était ma question, c'était... Il y a un rapport au texte, au casting, avec les enfants? Enfin, je veux dire...
Ah bah, ça peut, ouais.
On leur demande aussi, à 10 ans, d'apprendre un texte et de le jouer, parce que, pour le cinéma, en plus, je me demande comment ça se retranscrit, des enfants qui apprennent des textes et qui viennent les jouer.
C'est toujours un mystère, ouais.
Ouais, bah ça, c'est... Chaque réalisateur fait sa sauce pendant le tournage, après... Moi, sur les enfants que j'ai castés, on a travaillé sur des impros plus.
Ouais, voilà, c'est ça que je me demande, en fait. Ouais. Parce que chez les enfants, il y a une vitalité qui est comme ça, qui est nette et spontanée. Et du coup, je me demandais, quand on leur donne un texte, comment ça se passe, quoi.
Bah après, c'est des questions d'âge. Je pense que tu dois caster un petit de 4-5 ans. Sur des jeux, des impros. Après, ça dépend du rôle. Moi, les jeunes que j'ai castés... sur eux qui devaient... on était plus sur un travail d'improvisation.
Okay. Et une fois que le casting est terminé, tu interviens plus sur le tournage?
Non.
D'accord.
Des fois, c'est pas violent, des fois. Ça y est, ça s'arrête.
Si, c'est un peu...
Bah oui, j'imagine.
Enfin, ça l'est peut-être un peu pour moi, parce que j'ai eu une grosse expérience sur un film, et que même si je suis allée sur le tournage, revoir...
Tu t'investis beaucoup, même dans l'univers,
en même temps,
dans
c'est demain, tu fais une tournée avec une équipe, et puis...
Ça s'arrête, quoi.
Et tu as été les meilleurs amis de la Terre, et puis après, tu te vois plus, quoi. C'est aussi un peu... C'est l'endroit, mais ça, tu l'as en tant que comédien, l'as l'équipe de tournée. Tu vois ça, quoi. Ça fait partie du jeu.
Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Anne ou des sujets à aborder?
Non, moi, je dirais merci.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Anne Béliard de t'être prêtée au jeu du microscope. Vous êtes toujours dans l'émission Arros ta Castille. Ta castière. Non. Ben non. Arros ta castière. Radio FM Plus 91 FM à Montpellier. Nous allons maintenant passer à l'actu du mois. Nous allons donc passer à l'actu du mois. Alors Clara, je crois que tu as une actu pour ce mois-ci.
Tout à fait. J'ai une actu. Je vous parle d'un film qui est au cinéma, je pense pas pour longtemps, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, qui s'appelle Los Nadies, réalisé par Juan Sebastián Mesa.
Qui est norvégien, du coup ?
Non. Qui est colombien. Ça parle de jeunes qui ont entre 17 et 30 ans en Colombie, dans une ville. Et en gros, c'est des jeunes qui traînent, c'est des jeunes qui sont ultra marqués par la culture punk. Ils passent leur journée dans les rues, ils font du graff, ils jonglent devant les feux rouges. Enfin, et ça parle de cette espèce de jeunesse punk qui traîne dans les rues. Et je sais pas, moi ça m'a marqué parce que. Parce que ça nous offre un regard complet de ça et pas juste ces gens qu'on croise comme ça dans la rue qui font la manche, on comprend pas, ils ont 20 ans, ils font la manche et ça nous offre un portrait complet de ça et je trouve que à travers le portrait de cette jeunesse, je trouve que ça soulève vraiment des questions sociales, je pense, qui nous concernent. Et j'ai trouvé ça très beau, c'était un très beau portrait. C'est le premier long métrage de ce gars qui a déjà fait du cours, qui je crois s'est formé dans une école de ciné. Et voilà, je le recommande.
Ok, ça passe où ? Dans tous les cinémas ?
Bah non, justement, je pense pas. C'est vraiment un petit film peu diffusé, qui a été tourné avec peu de moyens. Moi, je l'ai vu au Diagonal à Montpellier. Après, il faut se renseigner et regarder où ça passe. C'est du coup Los Nadies.
Ok, donc Los Nadies.
Si.
Bah merci Clara. Nous allons donc refaire une interlude musicale, l'occasion pour moi de vous faire découvrir Lizard State, un jeune groupe de musique de Montpellier, avec leur chanson Bad Widow. Voilà, c'est un copain à moi, c'est mon ancien colocataire, donc voilà, je vous fais découvrir ça. Et après on passera à notre nouvelle rubrique, Madame Ninon. Vous êtes toujours sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier et arrête de bafouiller Thibaut Bayard, alors s'il te plaît. Nous allons donc vous faire partager notre nouvelle création que Clara et Maya ont écrit avec la participation de Nathan Le Gracier. C'est Madame Ninon.
Madame Ninon, numéro 3, passage des Chevaliers Gambettes.
Sylvie relit l'adresse inscrite sur le bout de papier froissé qu'elle tient dans sa main. Il est bientôt l'heure du rendez-vous, et si elle ne trouve pas rapidement la rue, elle sera en retard. La jeune femme avait pourtant quitté son appartement avec de l'avance par précaution. Le GPS sur son téléphone a l'air lui aussi d'être perdu, alors elle décide de rejoindre à nouveau le bord de l'océan, car il lui semblait que les gens de l'association avaient parlé d'une maison en bord de mer. La brise glacée vient lui mordre les joues à l'instant où réapparaissent à ses yeux les rochers et les vagues. Il y a 3 maisons à vue le long de la côte, mais pas de panneau indiquant le nom de la rue. Les 2 premières maisons sont des maisons rénovées. La première très moderne, avec une piscine couverte dans le jardin. La deuxième avec des jouets pour les enfants dispersés devant l'entrée et une BM immatriculée 75 garée devant le garage. La troisième est un peu plus loin des 2 autres. C'est une maison imposante en pierre grise, tellement majestueuse qu'elle paraît surplomber l'océan comme une falaise. Sylvie avance d'un pas timide vers le petit portillon de la clôture en bois qui encercle la maison et découvre là une vieille boîte aux lettres avec une petite étiquette sur laquelle on peut lire les mots « Chez Madame Ninon ». C'est ici. Sylvie regarde sa montre, il est pile, c'est l'heure du rendez-vous. Avant d'ouvrir le petit portillon, elle remet le dernier bouton de son manteau et s'assure qu'il n'y a rien qui dépasse et que les courroies de son sac ne sont pas entortillées sur ses épaules. Elle s'essuie le nez et les yeux que le vent froid a fait couler, et tire sa mèche de cheveux blonds derrière l'oreille pour éviter qu'elle tombe. Elle se décide enfin à ouvrir le portail et à entrer. Il y a un pommier sur la droite, et 2 grands pins sur la gauche. Et à ses pieds, le début d'une petite allée de pierres plates qui mène à la porte d'entrée. Elle l'emprunte, et arrive devant la porte. Elle compte jusqu'à 3 et appuie sur la sonnette. C'est un jeune homme qui lui ouvre. Il est plutôt grand, avec des cheveux courts, de couleur châtain qui virent au roux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Sylvie de l'association À l'écoute à tout âge.
Ok, ben moi je suis l'infirmier, bonjour.
Enchantée. Je viens voir Madame Ninon.
Ok, ben je vous accompagne.
Il la guide à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur, Sylvie regarde autour d'elle. Ça sent le vieux bois et la pierre humide, et malgré le temps, il ne fait pas tout à fait froid. C'est comme si les seuls rayons de soleil occasionnels avaient voulu entrer par les fenêtres de cette maison en priorité. En face d'elle, il y a un grand escalier en bois massif, et à sa droite, une pièce qui semble être la cuisine. Ils empruntent l'escalier et arrive à l'étage.
Vous savez qu'elle parle pas, hein?
Bah oui, c'est pour ça que je viens, je parle la langue des signes, en fait.
Et Madame Ninon? Il y a la demoiselle de À l'écoute à tout âge qui est là.
Il lui ouvre la porte devant laquelle il se trouve et l'invite à entrer. Après quoi, il la salue et redescend. Sylvie entre timidement dans la chambre de Madame Ninon. Elle y trouve une grande bibliothèque pleine de livres, et une petite table ronde blanche de jardin contre le mur, avec 2 grandes fenêtres avec vue sur l'océan Atlantique. Puis, assise au bord de son lit, une vieille dame d'environ 85 ans, un livre à la main, dont elle avait probablement interrompu la lecture à l'entrée de la jeune femme. Ses cheveux argentés presque blancs sont attachés en chignon bas, et elle porte un col roulé de couleur bleue outre-mer.
Bonjour.
Madame Ninon entend la jeune femme mais ne signe pas pour répondre. Elle se contente de se lever doucement de son lit et de se diriger très lentement vers la petite table où elle finit par s'asseoir. Sylvie hésite un moment, puis décide de s'installer en face de Madame Ninon.
J'ai amené un jeu d'échecs, Madame Ninon. Vous voulez jouer ?
Les 2 femmes se regardent un long moment sans parler. Les grands yeux bleus plein de surprise de Sylvie semble hypnotisée par les yeux noirs mystérieux de Madame Ninon. Sylvie installe le jeu en silence, en veillant à mettre les pions blancs du côté de Madame Ninon pour que ce soit à elle de commencer. Les mains de la vieille dame sont toutes blanches, presque transparentes, et délicates comme du papier. C'est à elle de commencer. Elle déplace un pion blanc avec une précision lente mais sûre. Les 2 femmes jouent en silence pendant un long moment,
jusqu'à ce que l'impassibilité et la régularité des gestes de Madame Ninon viennent semer le doute sur le visage de la jeune femme. Une peur terrible s'empare d'elle, celle d'ennuyer la vieille dame.
Ah, c'est peut-être nul les échecs, hein. J'ai pensé que c'était une occupation, que ça a fait passer le temps, mais si vous préférez jouer à autre chose...
Sylvie se tait et regarde encore un long moment Madame Ninon. Les yeux figés de la vieille dame donnent l'impression qu'elle est en train de regarder à l'intérieur d'elle-même. La jeune femme la quitte des yeux et balaye le mur jusqu'à venir poser son regard sur des petits coquillages délicatement disposés sur le bord de la fenêtre. Puis revient sur la table et va pour prendre la théière.
Je vous ai servi du thé.
Son regard revient se poser sur les coquillages.
Moi, vous savez, j'aime bien marcher au bord de l'océan. La prochaine fois que je viens, on pourrait aller à l'océan, vous et moi, et on pourrait prendre votre fauteuil. Vous savez, en ville, il y a des types qui tirent des fauteuils roulants à vélo. Je pourrais ramener mon vélo. Je pourrais vous tirer et on irait se balader au bord de la mer, vous et moi.
Madame Ninon semble écouter la jeune femme, mais comme si elle prenait goût au caractère mystérieux de son immobilité, la laisse à nouveau sans réponse.
Enfin, si vous avez envie.
Madame Ninon prend une gorgée de thé, puis se lève, lentement, délicatement, comme si le seul effet que l'âge avait pu avoir sur elle, c'était de ralentir le temps, d'exposer son corps à une lenteur qui se rapproche de plus en plus de l'arrêt complet. Et si son corps ne tremble pas sous ce rythme imposé, c'est sûrement parce que Madame Ninon n'a pas l'air de lutter, comme si c'était son calme plaisir d'avancer tout doucement vers cette perpétuelle immobilité. La jeune Sylvie regarde Madame Ninon se poster doucement à la fenêtre, avec la peur soudaine que la vieille dame puisse mourir subitement pendant sa visite. Mais Madame Ninon reste là, debout appuyée à sa chaise, et regarde au loin les vagues se casser contre les rochers. Puis, plus loin encore dans l'océan. Puis encore plus loin, comme si son regard arrivait à voir au-delà de l'eau. Sylvie prend une gorgée de thé que les longs silences ont rendu tiède.
C'est une chance d'avoir des fenêtres qui donnent sur l'océan. Ça fait longtemps que vous habitez là ?
Madame Ninon tourne légèrement la tête vers la jeune femme, sans la regarder, puis lève sa main libre comme pour signer, puis la laisse retomber.
Enfin, je veux dire, ici, c'est beau chez vous. C'est grand, mais... Vous n'avez pas peur ici, toute seule, Madame Ninon ?
La vieille dame est de nouveau entièrement retournée vers la fenêtre. Elle ferme les yeux, mais Sylvie ne le sait pas.
Il est l'heure, je vais y aller, Madame Ninon.
Sylvie attend un moment, mais Madame Ninon ne se retourne pas. Alors elle décide de prendre ses affaires, en veillant à ne pas perturber davantage la vieille dame, et s'en va doucement, refermant la porte derrière elle. Sylvie marche d'un pas lourd et effréné sous la pluie qui s'était mise à tomber à l'instant où la visite s'est terminée. Elle est trempée de la tête aux pieds. Ses yeux tristes regardent ses pieds avancer avec violence, ses cheveux se collent à son visage, et son sac à dos goutte. La moitié restante de son sandwich au poulet qu'elle s'était gardé pour après la visite est probablement foutue. Son arrêt de bus est à l'autre bout de la rue dans laquelle elle se trouve, et elle voit son bus arriver. Elle court péniblement dans l'espoir qu'il l'attende. Le bus est arrêté, et au dernier moment avant de redémarrer, le chauffeur la voit arriver et lui ouvre la porte. Sylvie grimpe dans le bus, s'assoit dans la place derrière le conducteur et se met à pleurer. L'océan est déchaîné et le tonnerre commence à gronder. C'est le début de la tempête. Et si on était un être perdu dans les vagues et le courant, on pourrait apercevoir au loin Madame Ninon à sa fenêtre qui veille sur nous, en attendant que tout retrouve son calme et que les oiseaux se remettent à chanter.
Voilà. Voilà, c'était la nouvelle rubrique de notre émission Arroz ta cafetière qui s'appelle Madame Ninon et qu'on va retrouver normalement à chaque émission. Ben voilà, l'émission touche à sa fin. Donc un grand merci à nos invités Benoît Ramos et Anne Béliard, à Clara et Maya et à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, à Guillaume et Stéphane à la technique. Et merci à vous de nous écouter et de continuer à nous écouter. On se retrouve à la prochaine émission. Salut!
J'aime remonter mes chaussettes et pisser sous la douche. Par contre, j'aime pas m'arracher les poils du nez. J'aime bien être témoin d'une scène tellement énorme qu'on n'oserait même pas la mettre dans un film. J'aime pas faire l'amour avec une femme et penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien l'idée qu'après la mort, ce sera pas pire qu'avant la naissance.